La revue de presse internationale.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, à quoi devrait ressembler la future Europe ?
Oui, comment relancer le projet européen ? Le sommet qui s'ouvre ce matin à Bruxelles n'aura probablement pas la prétention d'apporter une réponse définitive et pourtant... Il y a urgence, s'inquiète la Stampa, avec des scrutins à venir à haut risque, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. L'UE joue cette année, et plus que jamais, sa survie. Pour répondre notamment aux populistes d'extrême droite qui veulent détruire l'UE, un nouveau souffle est aujourd'hui indispensable, prévient à son tour son confrère de Volkskrant. Pour ne prendre que le cas de la France, par exemple, personne ne doute qu'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle porterait en effet le coup de grâce à l'UE, tant la volonté de la dirigeante frontiste de sortir de l'Europe est très claire. Or, sans la France, l'entente politique sur laquelle repose l'intégration européenne s'effondrerait instantanément. Et l'on pourrait tout aussi bien pointer la menace que constitue en Allemagne le parti populiste anti-islam et eurosceptique AfD ou le parti d'extrême droite PVV aux Pays-Bas. Mais... indépendamment d'une éventuelle élection donc de Marine Le Pen, la crise est plus profonde encore et son véritable point de rupture en réalité, ne l'oublions pas, a été le Brexit. Étant entendu, précise à nouveau la Stampa, que le Royaume-Uni n'est pas le problème, mais bien ce à quoi le Royaume-Uni a décidé de tourner le dos, c'est-à-dire à nous qui restons. Or, 8 mois après ce séisme, note Der Standard, force est de constater que les 28 chefs de gouvernement n'ont toujours avancé aucune feuille de route quant à l'avenir de l'UE. Et pourtant, le temps qui passe, lui, n'y change rien. La question posée reste invariablement la même. Le Brexit va-t-il conduire à la désintégration de l'UE ou la pousser, au contraire, à rester unie ? Ou dit autrement, selon le quotidien Trude, dans ces nouvelles conditions, l'UE parviendra-t-elle à se maintenir en tant que mécanisme unifié et homogène ? Nombreux sont ceux, aujourd'hui, qui considèrent que l'approfondissement de l'intégration au sein de l'UE est associé à la mise en place d'un budget commun, d'une homogénéisation de la plupart des impôts, d'une redistribution des dettes et d'une plus grande harmonisation de la politique sociale. Seulement voilà, voulons-nous vraiment payer des impôts aussi élevés que les Français ? Interroge l'hebdomadaire polonais, le visiteur du dimanche. Voulons-nous payer la dette des Italiens ? Et voulons-nous vraiment soutenir financièrement les immigrés sans emploi en Allemagne ? Probablement pas. Et c'est ainsi... que lundi dernier, donc, les chefs d'État et de gouvernement de France, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne se sont déclarés favorables à une Europe à plusieurs vitesses. Ce débat n'est d'ailleurs pas nouveau, mais il est réaliste, estime le journal des négociations, s'il découle du constat qu'une Europe dont tous les membres sont dans le même bateau ne peut avancer. Qu'on l'appelle l'Europe à géométrie variable ou l'Europe à plusieurs vitesses, l'idée que tous les pays membres n'ont pas la même vision de l'avenir, le même enthousiasme pour l'intégration, la même capacité à renoncer à des pans de souveraineté offre en effet une porte de sortie à la paralysie, remarque à son tour le magazine Slate. Sans compter que la possibilité d'une Europe à plusieurs vitesses existe déjà en réalité dans les traités, même si on ne le dit pas trop fort, afin de ne pas vexer les petits pays ou les retardataires. En clair, pour la mettre en œuvre, pas besoin de nouveaux référendums où les risques de rejet de l'Europe sont de plus en plus grands. Le risque, pointe son confrère Sega, c'est qu'à terme, tout le monde n'aura plus son couvert au restaurant de l'UE. Aujourd'hui, certains sont d'avis que le grand restaurant de l'UE n'est pas aussi agréable qu'avant, car il est rempli de nouveaux invités, trop bruyants, et que s'ils nous prennent nos tables, il ne nous restera plus qu'à rester debout, et qu'ils nous proposeront ensuite peut-être de faire le service, en tout cas qu'ils ne discuteront pas avec nous, puisque cela deviendra le privilège de ceux qui ont une place assise. Ils nous feront un signe de tête, claqueront des doigts, ou nous hélerons pour nous signifier quand et comment nous devrons les servir. Quoi qu'il en soit... précise cette fois-ci le bloc contributeur, c'est ainsi qu'on assiste donc aujourd'hui à un tracé de frontières discrètes, mais efficaces, qu'elles soient politiques, économiques, législatives ou administratives, pour faire face à l'influence prétendument néfaste des pays de l'Est sur la prospérité des pays de l'Ouest. Le problème, c'est que ceux qui évoquent les scénarios d'une Europe de classes différentes jouent avec le feu. Une Europe à deux vitesses sonnerait en effet le glas de l'UE actuelle et une fragmentation en au moins deux catégories d'États. Un retour, de facto, à la situation d'avant 2004 où les pays post-communistes étaient considérés comme des alliés de l'UE et ne jouissaient pas encore de l'ensemble des droits de vote politique dans les institutions. En clair, il n'y aurait qu'un pas entre l'intégration européenne et la désintégration européenne. Non seulement ce scénario ne parviendrait pas à résoudre la crise, mais pire encore, il risquerait de verser de l'huile sur le feu. Bref, on le voit, l'Union européenne qui fêtera le 25 mars, le 60e anniversaire du traité de Rome, son texte fondateur, est donc bien malade. Alors que faire ? Le quotidien Vesalnylist avance une hypothèse. L'intérêt des citoyens doit être, dit-il, au centre des grandes décisions sur l'avenir de l'UE. Le choix du bon scénario doit être guidé par l'idée fondamentale du bien-être des citoyens. En clair, plus de 500 millions d'Européens doivent tous bénéficier des mêmes droits. Tout le reste n'est que manœuvre politique qui ne mène qu'à la création de nouveaux rideaux de fer.